toutes et à tous et bienvenue dans Showtime, votre émission sur le partage de la passion du cinéma et de la pop culture sur les ondes de Radio Larzac. Pour ce second épisode de la saison 9, le cadre va être un petit peu particulier, mais j'y reviendrai après le programme de l'émission que je m'en vais vous présenter. Ce mois-ci dans l'émission, dans cet épisode du mois de novembre, toujours l'actu du mois, suivi par quelques suggestions, puis viendra un avis sur le jeu vidéo House of Ashes, et pour terminer, un focus sur l'exposition du club cosplay qui se tient encore et toujours à la MJC, mais plus pour très longtemps, il ne vous reste que quelques jours si vous voulez justement voir de quoi il en retourne. Ceci étant dit, j'en dis pas plus, Showtime saison 9 épisode 2, c'est parti! Je suis un petit peu étalé sur certains aspects de cette présentation, mais il faut quand même que je désamorce certaines choses, notamment le fait que le cadre de cette émission est un petit peu particulière. Bon, ce 11 novembre, où vous entendez l'émission, ben je suis absent, donc je ne peux pas faire d'émission en direct, donc je reprends un petit peu mes vieilles habitudes, hein, en enregistrant la dite émission depuis mon chez-moi, avec mon petit micro, et oui, on va faire une émission en cadre de direct, fou direct, et puis voilà, et on reprendra bien entendu les directs à partir du mois de décembre. Ceci étant dit, ben, j'en ai pas plus à vous dire, hein. Oui, encore une fois, exposition cosplay, hein, c'était du 22 octobre au 13 novembre, donc plus que quelques jours, hein, plus beaucoup, hein, 2 jours, hein, pour pouvoir aller la voir, donc si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous pour y aller. Mais on en discutera un petit peu plus suite au focus. Ceci étant dit, j'en dis pas plus, c'est parti pour l'actu du mois. L'actu du mois. Alors, ce mois-ci, dans l'actu du mois, j'ai pioché quelques petites news, hein. Pas beaucoup, de quoi juste présenter, remplir un petit peu la section avant de rebondir un petit peu, comme je l'ai eu fait précédemment, sur une bande-annonce qui est sortie dernièrement. Alors, déjà pour commencer, le 16 octobre dernier, c'était le DC Fandom 2021, une conférence en ligne où l'éditeur américain DC Comics, Detective Comics, présente certaines des choses à venir, et ça a été notamment le cas avec DC et Warner pour le The Batman de Matt Reeves, qui est prévu pour une sortie le 2 mars 2022. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. On voyait un petit peu plus la noirceur, hein, quand même de ce The Batman, hein, qui est quand même plus que palpable. On a affaire à un... je vais pas en dire plus. Plutôt que de m'embourber dans des mots, des propos, je vous propose que l'on lise, que de vous lire le synopsis qui a été, du film qui a été dévoilé justement après la révélation de cette seconde bande-annonce. The Batman est un thriller nerveux et bourré d'action qui dépeint les débuts d'un Batman luttant pour trouver un équilibre entre la rage et le droit chemin alors qu'il enquête sur un mystère inquiétant qui terrorise Gotham. Robert Pattinson offre un portrait brut et intense de Batman en justicier délusionné et désespéré qui prend conscience que la colère qui le consume ne le rend pas meilleur que l'impitoyable tueur en série qu'il traque. Alors, ça, c'est le synopsis du film. Et dedans, il n'est pas précisé que, si j'ai bien compris, que là, le Batman, il en est à sa deuxième année d'existence. Donc, il a quand même un petit peu du bagage, mais il a toujours la fougue de la jeunesse, si l'on peut dire. Des éléments qu'on pouvait retrouver, notamment au niveau de la noirceur, de la violence, déjà dans certains comics. Et également avec, si l'on prend en référence le jeu Batman de Telltale, c'était des très très bons jeux, très intéressants. Là, le Batman, il avait un an d'existence. Et oui, on retrouvait déjà... c'est pas la première fois qu'on traite de cette noirceur, de la violence du Batman à ses débuts. Et c'est intéressant de voir enfin cet aspect-là au cinéma. Hein, ça va être intéressant de voir cet aspect-là au cinéma. Je suis curieux de savoir ce que l'on va en faire pour ce second round, si l'on peut dire, du Batman contre l'homme mystère. Je dis second round parce que le premier round, c'était Batman Forever avec Val Kilmer contre Jim Carrey en homme mystère. Ici, c'est Robert Pattinson, donc, qui endossera la cape du chevalier masqué. News suivante. Le 26 octobre dernier, Legendary l'a annoncé. Ben, Dune aura une suite, sobrement intitulée Dune Part 2. Bon, sûrement, ça sera en français Dune 2. Ou avec un petit sous-titre, je sais pas. La question pouvait se poser, malgré le succès apparent du film, on savait pas trop encore ce qu'il allait en être, mais si, c'est officiel, hein. Il y aura bien une suite au film de Denis Villeneuve, et c'est déjà prévu pour octobre 2023. Affaire à suivre. Gal Gadot, oh, cette actrice, hein, déjà qu'elle a explosé avec le rôle de Gisèle dans les Fast and Furious, maintenant on l'identifie surtout sous les traits de la justicière de DC Comics. Vous voyez, on y revient, hein. Purée, j'ai réussi à faire une sorte de cheminement sans le vouloir. Donc oui, on la reconnaît surtout pour le personnage de Wonder Woman, hein, qu'elle incarne, hein, Diana Prince. Elle va revenir justement dans un prochain Wonder Woman. Elle va jouer Cléopâtre également prochainement. Mais, ici ce qui nous intéresse, c'est qu'il a été annoncé qu'elle va jouer la méchante reine de Blanche-Neige. Bah oui. Disney, la petite souris aux grandes oreilles, s'est décidé à faire un remake live action, hein, comme il n'arrête pas d'en faire en ce moment avec Cendrillon, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, etc. Remake live action, hein. On refait le dessin animé, mais en version live avec des acteurs. Voilà. Donc oui, c'est Gal Gadot qui incarnera la méchante reine, et c'est Rachel Zegler qui incarnera, elle, Blanche-Neige. Le tout sera filmé sous la caméra de Mark Webb, en espérant qu'il saura mieux y tisser sa toile chez Disney que... Non mais c'est une vanne en plus, le gars il retourne chez Disney. Je voulais faire un jeu de mots par rapport à Mark Webb, son nom, Webb, toile, Spider-Man dont il n'a pas pu terminer la trilogie, faire une blague parce que voilà, mais Disney maintenant c'est Marvel, enfin bref, ma blague tombe à l'eau. Sinon... Propulsons-nous vers un film qui sort tout bientôt. Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Alors, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un gros, gros fan de Resident Evil. Pour autant, j'ai su apprécier le travail de Paul W.S. Anderson. Ici, avec le film de Johannes Roberts, on va dire Johannes, hein, ça fait mieux que Johan Roberts, ben... Je sais pas que dire. Pourtant, le monsieur, Johannes Roberts, il a quand même fait les 47 Meters Down, les 47 mètres en dessous, si on peut dire, où il y a dans une cage, un groupe de nageurs se trouve pris au piège d'une cage à requins, et au final, ils doivent s'en sortir. Une sorte de The Descent, mais version aquatique, avec des requins qui nagent autour, en lieu et place des bébêtes, Wendigo, je sais plus trop, ou je suis en train de faire un amalgame avec autre chose encore dont je vais vous parler. Bref, vous comprenez l'idée. Mais le monsieur, il a du bagage au niveau de l'horreur, et quand on voit les premières bandes-annonces de Resident Evil Welcome to Raccoon City, bah ça fait peur. Déjà le casting, hein, Kaya Scodelario, c'est Claire Redfield, Anna Ron, John Kamen, c'est Jill Valentine, cette actrice, c'est celle qui jouait le fantôme dans Ant-Man and the Wasp, Robbie Amell, Chris Redfield, lui il est connu surtout pour avoir joué dans pas mal de petites séries télé. Tom Hooper sera Albert Wesker, c'est l'acteur qui joue, un des personnages principaux de Umbrella Academy. Et Avan Rogia sera Leon S. Kennedy. Oui, quand on voit tout ce beau monde, on se dit, sur certains aspects du casting, peut mieux faire. Notamment, Avan Rogia, Leon S. Kennedy est devenu hispanique. C'est un petit peu étrange. Autant si vous cherchez à m'adapter le personnage de Carlos Oliveira, pourquoi pas, mais là, c'est étrange comme choix de casting. Alors que quand on regarde celui qu'avait fait Paul W.S. Anderson, l'acting cosplay, hein, c'était pas dégueulasse. Hein. Bon, après, Paul W.S. Anderson aussi, il a fait quelques petits couacs, hein, au niveau du casting de certains des personnages de ses films. Hein, Chris Redfield. Là, au moins, le Chris Redfield, Robbie Amell, il ressemble un tant soit peu, du moins au jeune Chris Redfield. Mais oui, tout ça, c'est un film donc qui sort le 24 novembre prochain. Le dit film a le synopsis que voici. Autrefois, le siège en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City est aujourd'hui une ville à l'agonie. L'exode de la société a laissé la ville en friche, et un grand mal se prépare sous la surface. Lorsque celui-ci se déchaîne, les habitants de la ville sont à jamais changés. Et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur Umbrella et survivre à la nuit. Et j'en dis pas plus, bande-annonce sortie le 4 novembre de cette année 2021, logique.
Hello? What's your name?
What the hell happened here?
The Umbrella Corporation's been experimenting on this town since we were kids. People are getting sick. We have to stop Umbrella.
Show me your hands!
What the f-
The world needs to know what's really going on.
Resident Evil, Welcome to Raccoon City, rated R, exclusively in movie theaters November 24th.
C'était la dernière bande-annonce en date de Resident Evil, Welcome to Raccoon City, qu'on croirait être un gros mash-up immonde des trois premiers films. Surtout que là, par rapport à la news que j'ai sélectionnée, c'est que le gars, le Juanes Roberts, il dit quand même « Je vois bien utiliser le 4 pour la suite. » Ok. Donc vraiment, ça va être le premier opus et ensuite on passe de suite au 4. Oh là 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 là. Et là, le film, il va durer. Il est prévu pour durer... Ah, je trouve pas la durée, c'est dommage. Mais je crois qu'il avait été annoncé au moins 1h45 de film. Ça va aller très très vite, hein. Surtout quand on voit certains effets et certains effets spéciaux qui font un petit peu de peur. Je sais pas. Je vois que le temps passe, file. Je vais pas pouvoir me déchaîner autant que j'aurais voulu le faire sur la bande-annonce, mais non. Non, il y a certaines choses, non, ça colle pas. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'au final, je vais regretter les productions de Paul W.S. Anderson. Réponse le 24 novembre prochain, où je vais quand même essayer d'aller le voir, hein, pour vous faire un petit topo de la situation, mais après le visionnage. Ceci étant dit, je vous propose que l'on passe aux suggestions.
Les suggestions.
Ce mois-ci, dans les suggestions, j'avais beaucoup, beaucoup d'idées. Et je savais pas du tout vers quoi me diriger, de quoi bien vous parler. J'ai pensé déjà aux musiques, aux partitions de Jason Grave sur la Dark Pictures Anthology. Mais je me suis dit, ça va peut-être faire doublon avec la vie, où j'ai déjà parlé justement de cette série de jeux. Je me suis dit, pourquoi pas God of War, le dernier en date, avec l'ambiance hivernale, tout ça, les musiques, elles sont toutes sympas, ça pourrait être un truc original, surtout qu'il y a la bande originale qui va bientôt sortir le 10 décembre prochain, je crois, en vinyle, édition limitée, donc je me suis dit, ça pourrait être raccord avec cette petite news, tout ça, mais non, je me suis dit, Vincent, il y a quelque chose dont tu as pas parlé dans Showtime. Bon, c'est vrai, je voulais pas faire doublon avec ma chaîne YouTube Le Chafouineur, où j'en avais déjà parlé. Je veux vous parler ici, beaucoup de verbes parler, mais oui, je tenais à vous présenter, à vous parler... Oh, bref, je ne mâche plus mes mots. Je tenais à vous parler de Squid Games. Squid Games, la série Netflix qui est sortie le 17 septembre dernier, la série de comment il s'appelle le monsieur, Wang Dong-hyuk, qui est autant décrit, qui est aussi... qui peut... amenée à être à fasciner autant qu'elle autant qu'elle peut être décrite. Car oui, cette série, elle est particulière, vraiment très particulière, hein. Je pense que ça passe ou ça casse, mais on se retrouve quand même dans une sorte de dynamique à la Battle Royale. Battle Royale qui, à la base, est quand même un film, hein, des conseillers moins de 18 ans. Là, avec Squid Game, on se retrouve vraiment dans cette même dynamique avec... le synopsis que voici. Tenté par un prix alléchant en cas de victoire, des centaines de joueurs désargentés acceptent de s'affronter lors de jeux pour enfants aux enjeux mortels. Et des jeux auxquels à l'issue, hein, une récompense à nul autre pareil est prévue pour le gagnant. Donc ouais, ça apporte beaucoup de thématiques sociales, hein, voire même politiques. Hein. Enfin bref, j'ai pas trop m'étalé sur le décryptage de la série. Je l'ai déjà fait dans ma vidéo YouTube, que je vous invite à regarder si ce n'est déjà fait. Et merci de partager la passion. Tout comme vous pouvez partager cette émission. Mais oui, pour Squid Games, il y a beaucoup d'aspects qui sont intéressants. Hein. Notamment, là, je vais m'aventurer un petit peu plus sur le côté technique, mais l'image... enfin, il y a rien de folichon, mais franchement, l'image est propre. Il y a quand même certains plans qui sont très intéressants à voir. Mais là où ça fait toute la particularité, et là, on rejoint le nouvel aspect des suggestions, c'est au niveau de la musicalité. La musicalité qui est de Jung Jae-il, qui a des sonorités très asiatiques, voire même, on retrouve un petit peu ce côté jeu d'enfant dans certaines petites notes, ce qu'on va pouvoir un petit peu déceler dans la musique que j'ai choisi de vous passer. Mais oui, la musique est vraiment très très bon élément de cette série, qui est utilisée à bon escient, tout comme elle s'est... parfaitement se mettre en retrait lors de certains événements pour rebondir ensuite. Mais ouais, franchement, Squid Games, encore une fois, une série déconseillée aux moins de 16 ans. Faites attention, hein, moi j'ai trouvé ça très marquant, hein, Halloween, le nombre d'enfants, enfin du moins de jeunes adolescents de moins de 16 ans, très certainement, qui portaient les tenues de Squid Games. Je crois qu'il y a un souci dans cette société d'aujourd'hui. Mais j'en dis pas plus, hein, ça serait un tout autre débat, d'où le fait que la série a quand même certains aspects politiques, hein, etc., etc. Bon, j'en dis pas plus, hein, pour vous, Pink Soldier de Jung Jae-il. C'était Pink Soldier de Jung Jae-il. Le thème un petit peu des méchants, hein, de la fourmilière, hein, qui garde en joue toute cette centaine de joueurs, hein, qui est contraint de participer à ce jeu de la sèche. Bon, moi je vous propose, hein, qu'on passe du coup à mon avis sur la Dark Pictures Anthology House of Ashes.
La vie sur...
Alors, The Dark Pictures Anthology, qu'est-ce donc que cela ? The Dark Pictures Anthology, c'est un petit peu à la manière... je vais définir ça grossièrement un peu comme une sorte de creep show, hein, puisque à chaque opus, on suit un personnage, le conservateur, qui va nous conter une histoire. Et au cours de cette histoire, le joueur, celui qui tient la manette et qui vit cette histoire, qui se présente à la manière d'une sorte de film interactif, ici un jeu narratif, va devoir interagir, jouer sur certains éléments de cette histoire en prenant des décisions, bonnes ou mauvaises, mais chacun de ces choix aura des conséquences, qui pourra peut-être amener ou non à la mort d'un des protagonistes qu'il peut être amené à jouer. The Dark Pictures Anthology, ça a commencé en 2019, avec Man of Medan. Ça s'est poursuivi avec Little Hope en 2020, l'année dernière, et ça va bientôt se poursuivre avec un quatrième et dernier opus, The Devil in Me, qui est prévu pour une sortie en 2022. Mais ici, cette fois-ci, dans cet avis, c'est le House of Ashes, sorti le 22 octobre 2021, qui va nous intéresser. Ne jouez pas seul. Ne jouez pas seul. Découvrez The Dark Pictures, la première anthologie horrifique dont chaque jeu propose une histoire, des personnages et des lieux complètement différents, avec une narration aux multiples possibilités. L'enfer se déchaîne. Une unité militaire d'élite à la recherche d'armes chimiques fait une découverte bien plus dangereuse. Dans un temple sumérien, profondément enfoui sous terre, quelque chose de maléfique s'est éveillé. Un nid de créatures anciennes, barbares et surhumaines a trouvé une nouvelle proie à traquer. Frayez-vous un chemin sous terre et échappez à une terrible menace. Partagez votre histoire en ligne avec un ami ou jouez avec jusqu'à 4 amis hors ligne. Serez-vous capable d'oublier les différends entre vos personnages pour coopérer ?
You believe in God?
Absolutely not.
We'll start believing. We are under attack by... I don't know what. You wouldn't believe me even if I tried. Hell, I don't believe it and I was there.
In Sumerian myth, they say the souls of the dead went deep underground to the House of Ashes, where they lived on dust, plagued by the demons of the underworld.
Vraiment, ce Dark Pictures Anthology, House of Ashes, ben, à la base, moi, j'étais pas du tout intéressé. Lorsque on a vu les premières images à la toute fin de Little Hope, ben, le côté militaire, sous terre, tout ça, un peu ensoleillé, le cadre ensoleillé, tout ça, j'étais là, ouais, bon, pas plus intéressé que ça. Mais après, au fur et à mesure de certaines bandes annonces, notamment les dernières, l'intérêt a commencé à s'éveiller et je me suis dit, bon, un peu à la traîne, hein, bon, on va peut-être, on va le prendre et on va tester. C'est ce que j'ai fait. Et dès les premiers instants, j'ai été happé. Vraiment, ce jeu, souvent dans les Dark Pictures Anthology, on nous projette dans le passé avec deux personnages random. Hein, de par la temporalité, on se doute qu'il va se passer un truc, qu'ils vont mourir d'une manière ou d'une autre. Mais ça nous permet de nous mettre dans le jeu, de découvrir justement les mécaniques du jeu, le gameplay. C'est-à-dire qu'avec ce prologue introductif, si on peut dire, ça permet de comprendre comment jouer, de se remettre un petit peu dans le bain. Et là, de suite, ça a marché. Déjà, on se passe bien longtemps dans le passé. Je sais plus, mais c'est bien moins 2000 avant Jésus-Christ. J'ai peur de dire une bêtise, mais ouais, c'est bien avant Jésus-Christ qu'on se situe. Et on vit un petit peu les débuts du réveil, hein, de l'attaque de ces créatures. Des créatures qui, sur certains aspects, lorsqu'on commence à les apercevoir, à les voir se mouvoir, ça fait penser au Wendigo de Until Dawn. Until Dawn, justement, qui était supervisé par Supermassive Game et qui était sorti en 2015. Ici, c'est encore Supermassive Game qui est à la barre de ces jeux-là. Et franchement, ça matche. Bon, après, il est vrai que durant ces premiers essais qui correspondent, peuvent correspondre à ce que nous offre comme possibilité de temps de jeu, la démo, j'avais pas trop l'impression, tant l'impression que ça, de jouer. J'avais surtout l'impression que, de plus regarder un film qu'autre chose. D'où le fait que j'en fais le parallèle avec certains FMV, hein, les films narratifs, un petit peu à la Dragon's Lair et ou autres auxquels on pouvait jouer dans le passé, qu'on peut toujours jouer aujourd'hui avec des jeux comme Erika par exemple, et les jeux narratifs. Après, peut-être que selon les modes de difficulté, il y a certaines interactions, actions qui peuvent être plus mis en avant ou apparaître à l'écran. Ça, je suis curieux de le découvrir. Mais oui, à la fin de cette démo, moi, j'avais qu'une chose, une hâte, c'était enfin avoir mon jeu pour pouvoir découvrir l'aventure de bout en bout. Et franchement, ça matche super bien, hein. Moi, j'ai été vraiment happé par l'histoire, une histoire où on se fait de soi-même ses théories, hein, notamment sur les bébêtes. Hein. Lorsque l'on voit certaines éditions collector qui ont popé, notamment la Pazuzu édition, où on voit que il y a une référence à Pazuzu, temple sumérien, on fait de suite, si on est amateur de cinéma, le parallèle avec l'Exorciste, le film, mais non, je vais pas en dire plus, mais oui, on peut vite se faire certaines théories, et au niveau de l'histoire, surtout notamment au sujet de ces créatures, on n'est que bluffé. Et également, on est bluffé par la qualité d'écriture de ces personnages. Hein. Au début, on se dit, oh, des militaires random, tout ça, ça va pas être bien plus folichon que ça. Mais si, franchement, ça fait son petit effet. Hein. Il y a une qualité d'écriture pour certains des personnages. Là, je suis curieux de le refaire encore pour voir le développement de certains personnages, comment ça se passe s'ils viennent à survivre. Parce que oui, j'ai perdu quelques personnages. Mais ouais, franchement, moi, là, sur le coup, j'avais l'impression de jouer au digne successeur de Until Dawn. Et après, encore une fois, hein, c'est un jeu à 30€, hein, donc il ne faut pas s'attendre à une production à la Until Dawn où que l'on payait le prix fort alors à l'époque. Car oui, au niveau technique, hein, même si on en prend plein les yeux, hein, y a certains aspects hein, qui... c'est vraiment être chafouiné hein, que d'en parler. Mais oui, par exemple, quelques textures qui viennent apparaître soudainement, et j'en passe. Hein, enfin, c'est vraiment des petits détails techniques hein, qui vont pas gâcher en soi l'expérience. Hein. On peut peut-être reprocher la modélisation de l'actrice Ashley Tisdale, qui sur certains plans, bah, on se dit... T'es bizarre. Et sur d'autres, tu fais « Ah, là, je te reconnais ». Mais sinon, en soi, moi, techniquement, hein, j'ai quasiment rien à redire sur le jeu. Hein. Comme musicalement parlant, hein, Jason Graves, encore à la barre hein, des musiques, des productions Supermassive Game. Et ouais, franchement, ça match. Hein. Bon, je vous passe hein, la fameuse musique « Conversation with Death » de Chemist, hein, que vous allez pouvoir réentendre, parce que c'est pas la première fois que je la diffuse sur Radio Larzac, mais ouais, qui est superbe, superbe. Hein. Et le conservateur, oh là là, le conservateur. Bah tiens, on parlait de modélisation des personnages, mais le conservateur, la technique du personnage, il est super soigné. Autant quand on passe l'introduction avec des personnages de l'époque sumérienne, on se dit, ah ouais, la technique, tout ça. Bon, si on se rappelle que c'est quand même 30 euros, on se dit, bon, ok, ça passe. Mais après, quand on voit le conservateur, il est d'une classe folle et d'une beauté dingue. Et soyez attentifs, hein, parce que c'est vrai que. Soyez attentifs dans certaines séquences du jeu, hein, le conservateur n'est pas que dans son bureau. Voilà, j'ai parlé de la technique, des musiques, hein, du jeu en lui-même, ben oui, j'ai parlé du jeu, oui. Durant l'aventure aussi, j'ai ressenti cette sensation-là, oui, des fois de plus assister à quelque chose que de jouer. Mais encore une fois, je pense que comme j'ai fait en facile, peut-être qu'il y a certaines notions qui apparaîtront dans les autres modes de difficulté, et peut-être qu'il y aura d'autres choses aussi qui apparaîtront encore hein, lorsque je jouerai à la Curator's Cut, car oui, si l'on précommandait le jeu un petit peu en amont, on pouvait avoir accès à la Curator's Cut, une sorte de Director's Cut, hein, avec des scènes inédites, des choix inédits, des choix différents, des angles de vue différents, enfin, à suivre. En tout cas, moi, je ne peux que vous le recommander de vous y essayer, et la bande-annonce à la toute fin de The Devil In Me, ça donne super envie. Cadre, hôtel, abandonné, avec un tueur en série, il me tarde 2022. Et de découvrir ce que, justement, peut venir à nous réserver pour la suite Superb Massive Games.
Hold it. Hold it. Won't you spare me over till another year?
c'était A Conversation with Death de Kemis. Mais j'en dis pas plus, hein, je crois avoir dit, enfin, je crois notamment avoir fait le tour hein, de. Ah si, ouais. Bon, comme dans tout jeu, hein, il y a de l'exploration, et il y a aussi certains. Des, comme des tableaux, des fresques que si l'on vient. Que si l'on vient, oui, que si l'on vient à trouver, ben, ça peut donner des indications sur un possible destin pour nos personnages, et ça peut venir les sauver ou pas. Encore faut-il les décrypter. Voilà, ben moi j'ai pas plus à en dire, je vous propose que l'on passe au focus.
Focus. Sur.
Alors, pour l'occasion, pour ce focus, hein, je tenais à revenir sur le vernissage de l'exposition photo du club cosplay de la MJC. Le 22 octobre dernier, je m'y suis rendu et ai pris quelques petits sons que je tenais à vous présenter. Bon, bien entendu, hein, les joies du montage sont passées par là, parce que sinon il y en aurait eu pour près de 30 minutes de son, je pense. Donc, je vous présente un petit peu comment les choses vont se passer. Tout d'abord, vous allez entendre, nous allons écouter Mathieu du club cosplay de la MJC qui m'a expliqué, mais d'une façon, le cosplay, c'était beau. Franchement, j'ai jamais été autant happé par le discours de quelqu'un. Il nous présente le cosplay comme jamais. C'est donc Mathieu que vous entendrez en premier pour vous apprendre, faire prendre connaissance de ce qu'est le cosplay et de certaines choses qui tournent, gravitent autour du cosplay. Ensuite, ça sera Virginie Rousseau, représentante, vice-présidente de la MJC et représentante de Pascal Colombert, président de la MJC, que vous entendrez et, au cours d'un extrait du discours qu'elle a tenu et qui a amené justement à la mise en avant de certains partenaires et de certains acteurs qui ont œuvré sur ce projet, notamment ben, les animateurs de la MJC qui suivront, ainsi que l'escargographe au micro, à mon micro. Et pour terminer, nous entendrons Enzo, membre du club cosplay, terminer sur un très beau discours sur les valeurs et la dimension intergénérationnelle que peut avoir le cosplay. Mais j'en dis pas plus, je vous propose de les écouter.
Bonsoir, nous sommes au vernissage de l'exposition cosplay du club cosplay de la MJC Millau. Je suis avec
Mathieu
et nous allons parler un petit peu cosplay de certains éléments qui sont propres justement à cette pratique. Et il me disait tellement de choses intéressantes en off que je me suis dit non, il faut que l'on se retrouve un petit peu à l'écart pour pouvoir bien en discuter. Du coup, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur tout ce que tu me disais? Peut-être pas tout, mais pourquoi pas revenir sur la pratique, sur certains éléments qui sont propres au cosplay que l'on peut voir ce soir.
Alors déjà, je vais peut-être revenir sur le cosplay de manière globale. Le cosplay, contrairement à ce qu'on pense, c'est un art qui vient des États-Unis. Ça a été popularisé avec la sortie de Star Trek et de Star Wars, où certains fans venaient en costume du coup au film ou aux présentations. Ensuite, ça a été popularisé par le manga du coup au Japon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune similarité entre une convention japonaise cosplay, une convention européenne et une convention américaine. Au Japon, les cosplayers sont vus comme des objets. Très souvent, ils n'ont pas l'accès au hall, ils doivent rester dehors et ils sont axés réellement photo. Aux États-Unis, on est plus sur de la chorégraphie. On est plus sur le spectacle. Le cosplay n'est pas tant la priorité. On peut très bien se présenter un concours de cosplay aux États-Unis avec un cosplay acheté, tant que la présentation, tant que l'audio a été fait par ses soins. En Europe, au contraire, surtout en France, et on a d'ailleurs des cosplayers excellents là-dedans, on met quand même une grande importance à la fabrication du cosplay. Dans beaucoup de concours cosplay, on va demander à ce que minimum 70% du travail soit fait main. Il y a des achats qu'on peut difficilement éviter, comme par exemple des chaussures, des bottes, des gants. Ça demande quand même un certain savoir-faire qui est assez compliqué. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut quand même différencier plusieurs cosplays. Tout ce qui est cosplay d'apparat pour les photos, pour une exposition comme là, ou les cosplays plus pratiques qu'on peut apporter en convention. Les cosplays d'apparat, on va plutôt avoir des cosplays qui risquent d'être fragiles, qui vont pas subir des charges importantes ou qui vont pas être portés trop longtemps. C'est des cosplays qui peuvent être moins pratiques ou qui peuvent comporter des éléments, par exemple en métaux, parce que le métal est interdit du coup dans les conventions. En partie du coup à cause des événements qui s'est passé à plusieurs reprises. Les armes aussi sont de plus en plus limitées, donc le cosplay d'apparat pour les photos, c'est réellement là où on est le plus libre. Mais en contrepartie, c'est un cosplay qui du coup peut être plus fragile, un peu moins travaillé. Alors que le cosplay qui se porte en convention, lui, ça va demander plus de travail pour le consolider. C'est un cosplay où on ne peut pas empêcher les gens de toucher notre cosplay, même si on entend souvent parler du hashtag cosplay is not consent, et je crois beaucoup en ça.
Le hashtag quoi ?
Cosplay is not consent. Il y a eu beaucoup d'affaires, et surtout des affaires médiatisées dans de grosses conventions françaises, où des personnes s'amusaient à toucher des cosplays abîmés, ou parfois s'amusaient aussi à prendre des photos sans l'accord, ou toucher des cosplayers. Et ce hashtag a pour but de remettre un peu les choses dans leur contexte et d'expliquer que les cosplayers ont rien contre les visiteurs. Au contraire, si on fait du cosplay, très souvent c'est pour eux et pour nous, mais qu'un cosplay c'est du travail. Il y a des cosplays où c'est des centaines d'heures et on ne peut jamais faire quelque chose de parfait, donc c'est facile de décoller un élément ou de venir briser une couture. Donc le but de ce hashtag, c'est juste de calmer un peu les choses et voilà, de remettre un dialogue simple entre les visiteurs et les cosplayers, parce que c'est ce que les deux veulent de plein air.
Ce projet d'expo photo du cosplay est né à peu près en 2020, si je ne me trompe pas, on est d'accord. Il est porté par un petit groupe de jeunes ici présents, constitué de Andy, d'Enzo, de Leïla, qui n'est pas là. D'Isaac, qui n'est pas là non plus, de Mathieu est là, de Guillaume, là, Violine qui n'est pas là, et Chloé
qui
n'est pas là non plus. Donc si je ne me trompe pas, c'est entre Doux et je t'ai pas cité,
Clémentine.
Et de Clémentine, pardon. Donc si je ne me trompe pas, c'est entre 12 ans et 18 ans à peu près. Hein.
C'est ça, oui.
Voilà. Alors ce sont véritablement des jeunes qui sont passionnés par le cosplay et d'une polyvalence admirable. Pour les avoir vus un petit peu à l'œuvre, c'est juste incroyable. Je les envie de savoir faire autant de choses. Alors ces mis à voix ont bien sûr été accompagnés et soutenus par les animateurs de la MJC. Et on tient à les remercier particulièrement. Il y en a là, il y en a derrière. Ce projet a pu se concrétiser grâce au soutien de multiples partenaires, dont le Club Photo, qui a gentiment mis à disposition les encadrements, la ville de Millau, bien entendu, la CAF, la DDCSPP, avec la Bourse Agir. Donc la Bourse Agir, c'est l'action jeune, initiative et responsabilité. Je vais vous en parler un petit peu. Donc ce dispositif départemental favorise les initiatives des jeunes et le groupe qui nous réunit du coup ce soir a remporté haut la main le défi, et ce malgré encore une fois le contexte Covid. D'accord. Donc pour la petite histoire, ils ont dû donc monter ce projet, le présenter en visioconférence face à un jury assez imposant et ça peut impressionner hein, ma foi, donc avec des représentants de la DDCSPP, pardon, de la CAF, de la MSA et de l'information jeunesse Aveyron. Voilà, et ils ont su les convaincre puisqu'ils ont réussi à obtenir le maximum de moyens financiers possible. Donc ces jeunes présents ce soir sont vraiment de merveilleux exemples d'engagement, d'innovation et d'implication dans les volets artistiques, créatifs et esthétiques. Cette exposition est pour l'instant dans l'espace Galerie du Créa, mais elle est amenée à voyager hein, au sein de différentes structures socioculturelles en Occitanie. Et très honnêtement, on en est extrêmement fiers. Et on espère qu'elle va voyager le plus possible et le plus longtemps possible.
Alors je suis ici en présence de trois animateurs, deux animateurs de la MJC et dont une qui n'est plus parmi la MJC mais qui a piloté le projet, et avec le photographe qui est à l'origine du photo shooting qui vaut le vernissage de ce soir. Alors, qui est-ce qui veut un petit peu commencer par en parler? D'où est-ce qui est parti un petit peu le projet?
Alors, donc, il s'agit du club cosplay avec une dizaine de jeunes qui tous les ans s'impliquent sur un projet. Et du coup, cette année, ils avaient envie de faire une expo. Alors, au départ, non, ça partait d'un projet de participer à une convention. Ça n'a pas pu se faire, donc ils avaient commencé à chercher des subventions, à solliciter la subvention de la Bourse Agir. Ça n'a pas pu se faire, et du coup, le plan B, qui s'est avéré en fait être un plus gros projet, c'était de réaliser une expo photo. Donc l'idée, c'était de se prendre en photo par un photographe, parce que ça, c'est un projet qu'on aurait pu faire entre nous, enfin voilà, ça n'aurait pas eu le même impact, quoi. C'est de faire appel à un professionnel, avoir un regard d'un professionnel et faire de belles photos dont ils sont fiers et quelque chose qu'après on peut utiliser. Et donc l'idée, c'était de se prendre en photo avec leur costume qu'ils avaient créé toute l'année. Donc ça faisait un an qu'ils travaillaient sur leur costume. Et voilà, et le projet est parti de là. En réalité, on n'a pas énormément de travail parce qu'en fait, c'est des jeunes qui, ça fait pas mal d'années qui s'impliquent sur des projets tous les ans, qui connaissent un peu les étapes du projet et qui sont vachement autonomes aujourd'hui sur la réalisation de projets, comment on construit un projet, quelles sont les étapes, le budget, comment on le fait, quel partenaire on va solliciter. Aujourd'hui, les jeunes sont ultra autonomes. Donc nous, on n'a fait qu'accompagner.
On les accompagne,
on est là, on va gérer la dynamique de groupe, voilà, on se répartit les tâches, etc. Mais c'est vraiment un projet jeune. Et ça... Bah nous, ça se voit pas pour le public, là, voilà, c'est un projet jeune. Nous, on sait ce qu'il y a derrière et on sait toute l'implication qu'ils mettent là-dedans et que ça fait du bien à beaucoup de jeunes aussi. C'est prendre confiance, c'est savoir qu'on peut réaliser des projets, que dans un groupe, on peut apporter quelque chose. Et c'est juste génial, quoi. Voilà.
Je compte justement essayer de porter au maximum ce genre d'initiative. Super. Et ce genre de choses au public mis la voix à travers Radio Larzac et... un petit son qui popera également sur YouTube. Émilie, tu as quelque chose à dire en plus ?
Je crois qu'ils ont tout dit. Que dire de plus ? À part, évidemment, merci encore une fois aux photographes qui nous a vraiment soutenus sur le projet. Et sans la Bourse Agir, sans les jeunes et sans lui, ça n'aurait pas été possible. Voilà. Et c'est vrai, comme disait Manon, on aurait pu faire un photoshoot juste avec le club photo, mais c'était pas l'idée, c'était vraiment d'être accompagné avec un professionnel. Et voilà, et c'est ce qu'il a fait, et vraiment merci à lui.
Et un lui que l'on va présenter tout de suite, l'escargographe. Présente-toi, qui es-tu, d'où viens-tu, de quel... Je voulais faire une rime avec une chanson un peu old school, type Goldorak ou quoi, mais ça me vient pas.
Alors, je m'appelle Xavier Ferrandez, l'escargographe. Je suis photographe sur Avignon, portraitiste, depuis peu portraitiste de France Excellence, depuis deux semaines. Je tiens tout d'abord à remercier la MJC ainsi que les jeunes pour la confiance qui m'a été accordée pour ce projet. Il faut quand même dire que l'essentiel du boulot, c'est eux qui l'ont fourni, parce que ce soit le costume, l'expression, ou même toute l'énergie qu'ils ont mis dans ce projet, il n'y a rien à dire, c'est eux qui ont tout fourni. Voilà. Et après, tout ce que je peux dire, c'est venez voir l'exposition. Le travail qu'ils ont effectué est vraiment formidable. Faites-vous plaisir.
Merci pour eux, mais pour revenir un petit peu sur toi également, tu as un petit peu du bagage aussi dans le milieu, etc.
Oui. Alors, moi, le cosplay avant le Covid, ça correspondait à peu près à 80% de mon activité. Le Covid est arrivé, j'ai dû revoir un peu ma façon de travailler. Vu que je suis portraitiste, je me suis reconcentré sur d'autres sujets tels que la famille, le corporate, le portrait personnel, le portrait d'accompagnement pour les personnes, comment trouver le mot ? Pour l'accompagnement psychologique, pour des personnes atteintes du cancer du sein, des personnes ou autres, et surtout pour la confiance en soi. À la base, le portrait m'intéresse pour ça, c'est pour aider les personnes qui ont un problème de confiance, un problème d'image, à se reconnecter avec leur soi intérieur. Et je pense que c'est la partie.
On peut retrouver ces thématiques dans le cosplay également, dans un certain sens.
Oui, clairement. Clairement. Voilà.
Oui, mais en tout cas, c'est très intéressant. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail?
Alors, soit sur Instagram, l'escargographe, soit sur mon site internet, l'escargographe.fr. et vous trouverez toutes les catégories et tous les travaux que je fais jusqu'à présent.
Et n'hésitez pas également à venir voir son travail à la MJC Créa de Millau au 10 boulevard Sadi Carnot, 12100 Millau.
Exposition qui commence du coup le 22 octobre et qui se finit le 13 novembre et qui est l'expo a lieu à l'espace Expo Créa sur les horaires du Créa, donc n'hésitez pas, venez voir les photos que les jeunes ont réalisées, leurs projets, et il y aura des permanences aussi avec les jeunes. Voilà.
Et je vais laisser du coup Enzo, un des jeunes du club, parler un peu plus en détail du club.
Bon, mais bonsoir à tous. Je me représente, du coup je suis Enzo, un adhérent du club cosplay, et je suis aussi du coup le porteur du projet au niveau de la bourse Agir. Donc ce soir, je vais vous parler de qu'est-ce que représente le cosplay pour nous et l'histoire de ce club et qu'est-ce que nous avons déjà pu faire par le passé. Le club de quoi, enfin, ce club a été créé tout bêtement, c'est Monsieur Marcillac qui avait rencontré des jeunes dans la rue en train d'afficher des affiches pour la zone 360 pour une soirée cosplay, qui avait dit « Oh, ben ce serait bien qu'on ait un club de cosplay », c'est parti de là. De là, nous avions une base de 7 jeunes vraiment motivés pour lancer le club. Puis nous avons, moi depuis que j'y suis, on a continué à apprendre à des jeunes, à faire de la couture, etc., à leur transmettre tout ce savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, le cosplay, à mon sens, est aussi un peu à l'image de notre société. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les formats où nous faisons un métier pendant 40 ans, ça n'existe quasiment plus. Le cosplay, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui représente le mieux notre société. On doit savoir coudre, travailler des matériaux, les poncer. Après, c'est connaître toutes les techniques de weavering. Bon, là, c'est tout ce qui s'agit, l'action du temps. Hein. C'est un mot un peu barbare pour dire ça. Donc, foutre des coups de massue sur des trucs pour les abîmer, d'autres pour les enterrer. C'est... Tout ça, ce sont des techniques différentes. Et moi, ce que je trouve vraiment formidable dans ce milieu-là, c'est que, comment dire, il y a une transversalité multigénérationnelle absolument incroyable. Quand on va à une convention, on peut voir des gens qui ont 40 ans assis avec des jeunes de 18 ans autour d'une même passion. Je trouve ça absolument incroyable. Bon, voilà, je vais aussi évoquer les anciens projets que nous avons pu faire avant d'en arriver à celui-ci. La première année, nous avons réalisé un shooting photo avec l'aide du club photo de la MJC, qui est un club adulte. Donc encore une fois, je reviens à cette histoire de transversalité multigénérationnelle. Et la deuxième année, nous sommes partis à une convention. Donc justement, c'est cet aspect où il y a de tous âges, toute passion, parce qu'il n'y a pas aussi que du cosplay à une convention. Il y a évidemment de la K-pop, tout ce qui peut ramener à de la culture asiatique. Et la troisième année, la troisième année 2020, Covid, malheureusement, on n'a pu rien faire cette année-là. Nous avons à peine pu terminer notre cosplay. L'année dernière, c'est le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est cette exposition photo. Ce projet, d'abord, dans un premier temps, nous avons pensé à aller dans une convention. Cette convention a été annulée. Et en fait, directement, dès le début à la Bourse Agir, nous avions proposé un plan B, car nous étions conscients des risques et nous savions très bien dès le départ que la convention risquait d'être annulée par rapport au contexte de Covid, le rassemblement de personnes, etc., etc. Du coup, nous avons décidé de faire un shooting photo et c'est après qu'on s'est annulé que nous avons vraiment défini les contours de cette exposition, comment on allait les faire et comment on allait la réaliser. Et surtout, quel cosplay on allait mettre et les choses qui font partie de la même chose. D'ailleurs, rejoignez-nous. Tu fais partie des jeunes, toi aussi. Et voilà, on te voit assez bien. Et du coup, je pense que j'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire. Encore une fois, je tiens à remercier absolument tous les partenaires qui nous ont aidés à concrétiser ce projet, notamment l'escargographe qui nous a vraiment accompagnés tout au long de ce projet. Il y a eu vraiment un réel suivi, un accompagnement. La Bourse Agir, la CAF et les autres partenaires. Merci beaucoup.
C'était donc un petit son, hein, mixé, monté, arrangé, pris lors de Uverzinichas, de l'exposition cosplay qui s'est tenue le 22 octobre dernier. Exposition qui dure jusqu'au 13 novembre, donc n'hésitez pas à y aller, à les soutenir, car oui, il faut pas s'en cacher, ils ont quand même fait un travail de dingue, il faut le souligner. Un projet donc, comme vous avez pu l'entendre, qui a pour vocation de voyager, et nous pouvons qu'espérer, leur souhaiter qu'il rencontrera tout le succès et la reconnaissance qui lui est méritée. Aux jeunes du club cosplay, nous pouvons les féliciter. Bon, je me sens un petit peu seul devant mon micro, mais bravo, franchement, bravo. Étant dit, ben moi j'ai pas plus à vous dire. Ah si, la musica que vous venez d'entendre, c'était Nibonu Ichi de Bakon, générique, premier générique de Gundam Mobile Fighters. Ah Gundam, toute une série de cœurs dont j'espère, grâce à l'aide de Culture Geek Mio, pourquoi pas, de vous présenter un jour l'univers de Gundam et du Gunpla, ça me ferait super plaisir, univers qui est mis en avant, le Gunpla, dans Gundam Build Fighters. Mais j'en dis pas plus, je pense déjà que cet épisode de Showtime va être assez long. Donc oui, cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, hein, que vous aurez pris plaisir à l'écouter, tout comme j'ai pris plaisir, hein, à vous l'enregistrer. Oui, je peux plus à vous dire non plus, tout simplement, hein, je vais remercier vous, auditeurs, de m'avoir écouté, Radio Larzac, qui continue de me diffuser et donc de donner sa chance au mainstream, et pas plus, hein, merci à toutes et à tous, n'oubliez pas, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je partage aussi ma passion du cinéma et de la pop culture, Chafouineur. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire, je vous dis donc, à la prochaine.